France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Chère mademoiselle Astrid Cyrano-Sion, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Merci d'être avec nous.
Merci
ce matin.
Vous.
Dear Mademoiselle, c'est le titre de votre nouvel album, disque hommage à Mademoiselle Nadia Boulanger. C'est ainsi que ses élèves fameux rassemblés sur cet album appelaient leur professeur bien-aimé. Sur ce disque enregistré avec Nathanaël Gouin au piano, mais aussi un certain Daniel Barenboim, lui aussi élève de Nadia Boulanger. Vous avez enregistré des pièces signées Nadia Boulanger, on va en écouter une dans quelques minutes. Et puis vous avez travaillé sur tous ces élèves ou ceux qui ont été inspirés par Nadia Boulanger. D'abord, s'il y avait un message, une ligne directrice dans l'œuvre de cette compositrice, chef, professeur, quel serait-il ?
Eh bien, je dirais l'ouverture d'esprit, et malgré un certain côté conservateur qu'on pourrait lui donner, eh bien pas du tout. En fait, je pense qu'elle a fait preuve de courage dans sa vie personnelle, dans sa vie privée, et puis qu'elle a dépassé les frontières qui étaient un petit peu mises en place à l'époque en tant que femme, en tant que musicienne. Aussi, ça paraît fou de se dire qu'elle a été chef d'orchestre, surtout chef d'orchestre sous cette place-là. On oublie de le dire, elle a été très importante, très connue par exemple notamment pour le Requiem de Forêt, d'autres œuvres comme ça. Donc voilà, je pense que c'est une très grande modernité dans une époque où ce n'était pas forcément facile en tant que femme et en tant que musicienne.
Elle a fait redécouvrir par exemple Monteverdi à une certaine époque.
Oui, et puis je pense qu'elle a été un petit peu oubliée. C'est d'ailleurs ce qui m'a motivée à faire cet album, en fait, un petit peu, en me disant que j'avais envie de montrer, et puis de surtout réussir à montrer sur un disque l'étendue et la diversité de la musique qu'elle a réussi à faire dans le XXe siècle. C'est quand même la spécificité aussi de cette époque, de ce siècle, c'est-à-dire qu'on a une diversité musicale absolument unique qui commence à partir du XXe siècle, et je pense qu'on lui doit beaucoup.
De Quincy Jones à Michel Legrand, d'Astor Piazzolla à Elliot Carter.
Oui.
Parler de sa vie privée, on sait peu de choses quand même de sa vie privée.
On sait peu de choses, elle a été très secrète. Je pense qu'elle n'avait pas... Elle estimait que la vie privée, c'était pas quelque chose de primordial, qu'on ne pouvait pas être à la fois, on peut pas servir son art et puis à la fois avoir une vie privée extrêmement dense. Donc voilà, et puis je pense que c'est tout à son honneur. Je trouve que la dénomination Mademoiselle est une dénomination très mignonne, très charmante, qui voulait également bien marquer qu'elle n'était pas attachée à un homme. Donc c'est aussi une chose que je trouvais assez douce de parler.
Mademoiselle Boulanger, rue Ballue, hein, cette fameuse rue. D'ailleurs, l'appartement aujourd'hui, on pourrait en faire un musée, quelque chose. Non, il y a des gens qui vivent dans cet appartement.
Oui, alors ça c'est une grande question. J'ai été assez déroutée de voir que l'appartement rue Ballue qui avait vu passer tant de personnalités importantes de la musique, mais pas que, aussi littéraires, des artistes, des grands pensants du siècle dernier.
C'était une mythique adresse,
36 rue Ballue. Oui, exactement, dans le 9e, donc il y a une place qui porte le nom de Nadia et Lily Boulanger, mais l'appartement lui-même, elle souhaitait, Nadia Boulanger, que cela devienne un musée, ce n'est pas devenu un musée.
Et la fondation... Il appartient à qui ?
Eh bien, en fait, c'est un peu compliqué, les meubles appartiennent un petit peu au musée de la musique et puis à la fondation Lily Boulanger, et puis les murs à l'Institut de France. Donc d'accord. Évidemment, ça crée un grand problème administratif qui fait que bien le musée n'a pas encore vu le jour. J'espère qu'un jour, peut-être.
L'appel est lancé à 8h34 sur France Musique. Parmi ces nombreux élèves qui sont passés rue Ballue, un certain Michel Legrand qui a appris l'art de la fugue avec Mademoiselle Boulanger. Thank you. Hélas, nous devons chanter, mais la suite est sur le disque « Dire Mademoiselle ». Un medley, un pot pourri autour de trois thèmes de Michel Legrand. Ici, on entend le thème des Parapluies de Cherbourg, juste avant les Moulins de mon cœur, extrait de l'affaire Thomas Crown. Et on a commencé par la fugue d'ouverture qui revient dans tout le film. Peau d'âne, Astrid Cyranossian au violoncelle, Nathanaël Gouin au piano, extrait de ce disque « Dire Mademoiselle », hommage à Nadia Boulanger, Michel Legrand, élève donc de Nadia Boulanger. Il en avait d'ailleurs parlé dans les grands entretiens sur France Musique qu'il nous avait accordé. Astrid Cyranossian, ses arrangements, ils sont de qui ?
Eh bien, ils sont de Nathanaël et moi-même. Nous avons décidé, évidemment, que Michel Legrand devait être présent dans l'album. C'était incontournable. Moi, j'adore les mélodies, les films. Voilà, Michel Legrand a composé la musique. Et je pense que, eh bien, il n'y avait rien pour violoncelle et piano. Donc, il a fallu faire des arrangements. Et nous avons un petit peu décidé de relever le challenge, de le faire nous-mêmes. Peut-être parce que en ayant plongé dans les archives et autres, Nadia Boulanger, elle était quand même très ouverte et elle poussait les gens à un petit peu essayer. Elle ne mettait pas de carcan, donc nous nous sommes dit que voilà, nous étions peut-être, c'était peut-être le moment de faire nos arrangements. Nous avons choisi les mélodies que nous voulions. Moi, je trouvais que c'était assez rigolo en fait de commencer par le générique de Peau d'âne puisque c'est une fugue et que l'art de la fugue était la grande spécialité de Nadia Boulanger et que Michel Legrand n'a cessé de lui rendre hommage toute sa vie. Et puis voilà, après deux très belles mélodies, un petit peu on part sur le jazz, voilà. Je pensais que c'était très intéressant aussi de montrer que cette diversité a été possible grâce à l'enseignement de Nadia Boulanger et qu'elle n'a en aucun cas essayé d'arrêter Michel Legrand dans sa voix.
Comme avec Piazzolla,
exactement.
Par exemple.
C'est ça qui...
Une accoucheuse en quelque sorte.
Oui, on peut parler d'accoucheuse. Je pense que voilà, elle n'a jamais en tout cas empêché qui que ce soit d'aller vers sa voix musicale, vers son expression voulue. Et au contraire, elle essayait de perfectionner la voix de chacun. Je trouve que c'est assez formidable, une grande preuve d'amour, une grande preuve aussi d'ouverture d'esprit, surtout parce que quand on voit vraiment l'éventail qu'elle a créé, voilà, c'était, je pense, sa spécificité pédagogique, c'était qu'elle poussait chaque élève à aller au plus loin de ce qu'il était et de révéler, d'en faire sortir ce qu'il y avait de mieux en eux, sans jamais vouloir les remettre dans des rails ou les obliger à faire telle ou telle musique.
Et en même temps, elle n'était pas commode. Il y avait un rapport amour-haine un peu que Michel Legrand évoque régulièrement. Émile Naoumoff, qu'on a reçu, je me souviens, l'an dernier, il y a cette fameuse vidéo, elle lui attrape le bras. Il a refait ici dans ce studio, il y a un an, le geste. On peut le voir d'ailleurs sur une vidéo sur francemusique.fr. John Elliott Gardiner, qui était à votre place il y a quelques semaines, Astrid Cyranossian, il nous parlait aussi, il disait la boulangerie. Enfin, il y avait côté un peu Nadia Boulanger, la prof, mais aussi un caractère très fort.
Oui, je pense qu'elle avait peut-être, parce que c'était une femme, elle avait besoin de s'imposer. C'était peut-être une manière pour elle aussi de se faire respecter par les hommes à une certaine époque. Après, elle était exigeante. Je pense qu'elle était extrêmement sincère dans son exigence et dans sa volonté d'être vraiment intransigeante vis-à-vis de la qualité pour la musique, pour l'art. Voilà. C'était vraiment quelque chose de très très sincère qu'elle a voulu, sans aucun filtre, diffuser au maximum de gens autour d'elle. Après, amour-haine, oui, ce sont des sentiments finalement assez proches. Mais je pense qu'aucun de ses élèves n'a regretté finalement, puisque ça leur a permis quand même d'avoir une grande liberté après.
J'imagine que vous avez écouté, regardé beaucoup d'archives. Voici une, tiens.
Si on cherche pour cacher sa misère, on attend. Si on cherche pour dire ce qu'on voudrait vraiment dire, on le doit. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est très important que le professeur laisse d'abord l'élève jouer comme il veut, écrire comme il veut, et puis être impitoyable sur les questions de discipline qu'il faut passer pour arriver à le faire.
On a les deux choses là, impitoyable.
Exactement.
Et puis en même temps laisser faire ce que veut l'élève.
Oui, et puis c'est une grande forme de respect aussi vis-à-vis de l'élève, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de changer ou alors de modifier sans prendre connaissance de la volonté personnelle de l'élève ou de l'humain. En fait, je pense qu'elle se comportait exactement de la même manière avec ses amis, c'est-à-dire on prend la personne comme elle est et puis on essaie de s'adapter, on la modèle. Et sa responsabilité aussi, je pense qu'elle était vraiment consciente de la responsabilité d'un professeur, voilà, de que l'élève apprenne quelque chose et que l'élève devienne quelque chose grâce au professeur. C'est quelque chose que je respecte beaucoup et j'espère que jamais nous n'oublierons en fait cette exigence vis-à-vis de l'art et que les professeurs professeur sont une partie très très importante dans le chemin d'un musicien. C'est aussi de temps en temps ce qui m'a un petit peu attristée. Je me suis rendu compte que tous ces élèves qu'elle avait eus sont devenus tellement célèbres, mais il faut jamais oublier qu'un musicien devient en fait aussi surtout un musicien et quelqu'un grâce aux professeurs qui jonchent son chemin. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu la chance d'avoir de très beaux professeurs et j'aime toujours leur rendre hommage.
Vous aussi, vous avez des professeurs pas commodes d'ailleurs. Hein.
Oui, j'ai eu des professeurs pas commodes, notamment.
Professeur russe, notamment.
Oui, notamment un professeur russe à Bâle, qui m'a fait découvrir la musique de Nadia Boulanger. Parce que quand je suis allée chez lui à Bâle, il y a une dizaine d'années, il m'a dit, tu es française, il faut absolument que tu joues les pièces de Nadia Boulanger. Donc ça a été ma découverte des œuvres de Nadia Boulanger. Il a été extrêmement dur avec moi, et extrêmement exigeant. Il n'a jamais transigé sur quoi que ce soit. Très, 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 vraiment extrêmement exigeant. Je ne sais pas si ces méthodes d'enseignement seront autorisées d'ici quelques années. Mais je ne regrette pas. C'était vraiment à l'époque, c'était vraiment une... Comme si j'étais rentrée dans les ordres, en quelque sorte. Mais je ne regrette pas parce que ça m'a appris énormément. Et puis voilà, j'ai compris que cette exigence qui, de temps en temps, pouvait me donner l'impression qu'il me détestait ou alors qu'il était vraiment pas sympa. En fait, c'était tout le contraire. C'était justement pour me rendre service à l'arrivée.
On en revient un peu à Nadia Boulanger. Exactement. Il a été élève de Nadia Boulanger. Il joue avec vous sur ce disque. C'est Daniel Barenboim. Voici l'une des trois pièces pour violoncelle et piano de Mademoiselle Nadia Boulanger. L'une des trois pièces pour violoncelle et piano de Nadia Boulanger, Astrid Cyrano-Sian au violoncelle et Daniel Barenboim au piano, un invité de choix sur ce disque. Disque qui paraît chez Alpha Classics, Dear Mademoiselle. Daniel Barenboim, avec lequel vous avez une relation depuis longtemps musicale intense. Oui. Vous êtes rencontrés comment?
Alors, nous sommes rencontrés puisqu'il m'a demandé de me rencontrer par rapport à son projet du West Eastern Divan Orchestra. Et puis, à la suite de cela, il m'a beaucoup invité en musique de chambre. J'ai eu la chance aussi de jouer avec Martha Argerich grâce à lui qui m'a invité. Et puis, je lui ai parlé du projet du disque, évidemment, puisqu'il m'avait également parlé du rapport qu'il avait avec Nadia Boulanger. J'avais été fascinée par ce qu'il me racontait. Et puis, à la Bibliothèque nationale de France, quand je suis allée étudier et regarder les correspondances de Nadia Boulanger, j'ai trouvé des lettres de Daniel Barenboim qui lui a écrit quand il avait 12 ans. C'est très émouvant parce qu'il lui écrivait comme un enfant de 12 ans. Quand on voit le personnage de Daniel Barenboim se dire, il a été enfant et il a écrit à son professeur sur des petites cartes postales extrêmement mignonnes. Donc voilà, et je lui ai parlé du disque, je lui ai dit vraiment ce que je préparais. Et puis c'est lui qui m'a proposé, il m'a dit, tu sais, j'aimerais beaucoup être présent sur le disque à ma manière, et j'aimerais vraiment beaucoup, en hommage à Nadia Boulanger, enregistrer les 3 pièces pour violoncelle et piano avec toi sur ce disque. Si, évidemment, ton pianiste est d'accord. Donc voilà, c'était un grand cadeau qu'il m'a fait, et je trouvais que c'était aussi une belle manière d'illustrer que Nadia Boulanger n'a pas eu que des compositeurs comme élèves, mais également des pianistes. Voilà.
C'est pas anodin d'ailleurs que Daniel Barenboim enregistre avec une violoncelliste. On sait qu'il a longtemps partagé sa vie avec Jacqueline Dupré. Moi, j'avais pas de souvenir qu'il a enregistré depuis Jacqueline Dupré avec une violoncelliste.
Alors au piano, je ne crois pas, non. Je crois que j'ai eu ce grand privilège d'être, depuis Jacqueline Dupré, la violoncelliste avec qui il a enregistré, en tout cas au piano, oui.
Sacré cadeau,
et puis surtout bel hommage de faire cela sur les pièces de sa professeure Nadia Boulanger. Voilà, j'ai trouvé ça très touchant, et la tendresse avec laquelle il parle de Nadia Boulanger m'a vraiment réconfortée dans le fait que cette femme a apporté beaucoup et est restée vraiment inoubliable dans chacun des élèves qu'elle a eu.
Astrid Cyrano-Sion, comme Daniel Barenboim, artiste engagé, vous l'êtes. On va faire une parenthèse, si vous voulez bien, quelques instants. Oui. Vous êtes d'origine arménienne, votre père est d'origine arménienne, vous êtes attaché à ce pays où vous allez régulièrement. Un cessez-le-feu a été signé la semaine dernière après les combats dans le Haut-Karabakh entre les civils arméniens et les combattants de l'Azerbaïdjan, beaucoup des djihadistes payés. On n'a pas faire de la politique internationale ici sur France Musique, mais ce cessez-le-feu laisse beaucoup d'Arméniens goût amer. On en parlait avec Antoine Péker lundi, ils se rassemblent devant l'opéra de la capitale, Yerevan. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos amis musiciens, artistes là-bas? Est-ce que vous y êtes allé récemment?
Alors j'y suis allée très récemment, je suis rentrée cette nuit d'ailleurs du Karabakh, où je suis allée sincèrement voir un peu les dégâts constatés en tant que Française, et puis j'ai eu des laissés-passer pour pouvoir aller dans cette zone de guerre. Voilà, c'est terrible la musique. Il faut savoir que mes origines arméniennes sont pour beaucoup sur le fait que je sois musicienne, puisque la musique, je pense, a toujours été un moyen de survie. Voilà, l'art, la musique a vraiment été un moyen d'expression, mais de survie, qui a réussi à dépasser en fait les frontières et les massacres. Et puis également, comme il y a énormément de par exemple de monastères ou d'édifices culturels qui ont beaucoup été détruits à travers le temps par les Turcs, par les Azéris, par beaucoup de gens, la musique est quand même un patrimoine culturel qu'il est difficile de détruire. Donc je pense qu'on tient vraiment beaucoup, quand on est d'origine arménienne, à divulguer cette belle musique. Moi je trouve que c'est de la très belle musique populaire, et voilà, qui a été vraiment un moyen de préserver un patrimoine culturel. Je ne suis évidemment pas spécialiste en géopolitique, mais je pense que c'était une manière, en tant qu'humain, d'aller aussi voir les humains. Et puis finalement, le rapport entre le fait d'être musicien classique et de toujours vouloir, nous passons notre temps à préserver au quotidien, enfin, un patrimoine culturel. Quand nous sommes musiciens, nous jouons des œuvres qui ont des centaines et des centaines d'années. Et c'est un petit peu finalement ce que j'avais aussi envie d'aller faire en Arménie, voir et puis essayer de protéger et puis de voilà, d'apporter à travers la musique peut-être un
Vous
petit peu de réconfort.
Vous avez joué avec des orphelins
récemment, voilà.
Des orphelins de cette guerre, hein, vraiment, qui ont perdu leurs parents il y a quelques semaines.
Ah bah oui, parce qu'il y a à peu près 100 000 réfugiés, donc énormément d'enfants qui ont perdu leur père, leur grand frère, dont les mères sont désespérées et voilà, qui doivent se reconstruire. Et c'est vrai que de pouvoir aller apporter à travers la musique un petit peu de réconfort à ses enfants, voilà, c'est aussi les valeurs de la musique, et puis les vraies valeurs de la musique qui font que c'est un moyen de communication qui peut réellement faire du bien. Et dans tous les moments de la vie, et même les plus terribles, on peut réussir à avoir le sourire d'un enfant grâce à la musique.
Ça veut dire quoi, Sareri Ovin Mernem?
Ça veut dire que je meurs au vent de tes montagnes. Il y a beaucoup de montagnes en Arménie, beaucoup de montagnes, et puis on attache beaucoup d'importance à la nature. Les mélodies populaires parlent beaucoup de la nature, de la vie, de l'amour, et puis voilà.
C'était il y a 10 jours sur la scène de l'Alliance Française chez Clément Rochefort sur France Musique.
Oui.
Vous jouez à Astrig et vous chantez. Astrid Cyrano-Sian au violoncelle et au chant sur France Musique il y a une dizaine de jours. D'ailleurs, les vidéos, on peut les voir sur le site de francemusique.fr dans l'onglet concert en replay. Je voudrais qu'on referme parce que ça va très vite. Dire Mademoiselle, un hommage à Nadia Boulanger. Et ça finit avec Quincy Jones qu'on va entendre dans quelques instants. Quincy Jones aussi, il y a quelque chose de politique dans ce musicien qui était aux États-Unis et qui est parti étudier en France.
Exactement, il est venu étudier en France l'orchestration pour cordes puisqu'il était absolument interdit pour les Afro-Américains de pouvoir avoir accès à l'enseignement d'orchestration aux États-Unis. Donc il est venu un peu en refuge auprès de Nadia Boulanger. Évidemment, il y a beaucoup à dire sur la relation avec les États-Unis de Nadia Boulanger, mais voilà, c'était aussi, ça fait aussi partie des élèves. Alors beaucoup de personnes me disent, mais enfin, il a été élève de Nadia Boulanger. Et j'ai dit oui, mais vous savez, les premières collaborations entre Quincy Jones et Michael Jackson ont eu lieu alors que Nadia Boulanger était encore en vie. Donc il faut aussi un petit peu se dire que le XXe siècle a fait éclore énormément de musique et qu'elles ne sont pas tellement éloignées. Voilà, c'était aussi un petit peu un amusement et puis une volonté de vouloir mettre en rapport dans cet album beaucoup d'élèves et puis de montrer vraiment la palette musicale qu'il a été possible grâce à Nadia Boulanger. Classique, mais pas que, ça groue avec Astrid Cyrano-Sian et Nathanaël Gouin, Soul Bossa Nova qui referme ce disque Quincy Jones, disque Dire Mademoiselle, hommage à Nadia Boulanger. Merci beaucoup, merci
Astrid Cyrano-Sian, d'être venue en sortant de l'avion quasiment, en revenant d'Arménie. On vous retrouve très bientôt et on espère que tous les concerts qui sont prévus auront lieu, et notamment rendez-vous le 6 janvier pour présenter cet album à Paris au Conservatoire National d'art dramatique, concert également plus tard le 25 avril justement en commémoration du génocide arménien, concert dont on reparlera bien sûr ici. Merci Astrid.
Merci à vous.
Demain notre invité sera le pianiste Francesco Piemontesi. Merci à Emmanuel Morse d'Incan, à Eric Carrère, à Antoine Baglin, à Marjolaine Portier-Kaltenbach, à Laure Poissonnier et à Margot Muller. Réalisation de cette émission, Yacine Bouzard. La réponse à notre jeu, une flûte, une seule flûte, était dans cette musique de Handel que nous écoutions il y a une heure avec La Rêveuse. Eux, ils sont deux, normalement, Émilie Munera, Rodolphe Bonneau-Boulmier. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste, nous allons ouvrir cette émission avec le Beethoven du Quatuor Zeid. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter, mais il y a un quatuor et puis il y a surtout un très bel arrangement de la sonate à Kreutzer.
Il y a un deuxième violoncelliste, non, qui est caché quelque part.
Oui, il y a un deuxième violoncelliste qui vient de Berlin.
Que de violoncelle.
Du Philharmonique de Berlin, absolument. Bruno de Lepeler, c'est lui qu'on va entendre.
À demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.